Vous nous aviez promis qu'ils reviendraient,
oui.
Et ils l'ont fait. Donc, oui. Bonjour d'abord Philippe Denis.
Bonjour Philippe Subercase.
Bonjour Diego Rabal.
Bonjour Philippe. Diego Rabal. Bonjour Philippe.
On a pris la machine à remonter le temps,
oui.
Nous sommes sur la Première Guerre mondiale,
oui.
Et on a vu toute l'importance du bois pendant cette guerre de tranchées.
Ben, on a vu toute l'importance du bois, et Dieu sait que c'est un sujet alors qui n'a jamais été évoqué. Alors, j'en parle aux connaissances de cause, Philippe Subercase, puisque je fais partie de l'association Phoenix Meuse sur les traces de nos héros, puisque mon arrière-grand-père est mort lors de la Première Guerre mondiale, donc à Verdun, qu'il est enterré donc à la nécropole de Belleray. Chaque année, je vais sur place, je vais dans les tranchées, on n'a jamais parlé du bois.
Et oui, parce que
on a jamais
tranché,
le bois.
On voit bien sûr dans les photos, dans les reportages, dans les films, dans les anciens films,
oui.
On voit bien sûr toutes ces tranchées avec le bois tout le long des tranchées.
Voilà.
Quoi.
On était dans les éparges, par exemple, où quand les troupes françaises et allemandes se sont retrouvées face à face, elles ont creusé. Donc il a fallu mettre du bois partout, puisque ce sont des galeries, des kilomètres de galeries. Je me suis jamais posé la question du bois,
mais
de la provenance.
C'est vrai, oui. Et comment ils arrivaient pour... Qui les faisait, ces planches,
voilà.
Qui les amenait
et comme je l'ai dit dans la première émission la semaine dernière, je vais donc dans... Je le dis en toute objectivité, le plus beau pays du monde dans les Landes, celui de ma mère, le Marensin.
Le
Marensin.
Je sais pas où c'est.
Marensin. Bah, sud du courant de Contis, la frontière, c'est le courant de Contis, le courant de Soustons.
Non plus.
Voilà,
ça
voyez
existe,
pas.
Hein.
Ouais,
existe,
il faut
hein.
que vous alliez là-bas, Philippe Subercase.
Mais vous savez, tout ce qui est beau est caché est rare. Hein,
exactement.
C'est ça, voilà.
Exactement. Et donc,
je vous chambre. Ouais.
Exactement. Et la semaine dernière, donc David Devigne, qui est à nouveau notre invité aujourd'hui. Bonjour David.
Bonjour.
Nous raccompagne à nouveau parce qu'il
Bonjour.
Nous a parlé de la semaine passée des faiseurs de sciures. C'est
oui.
le nom qu'on a donné aux bûcherons canadiens qui, durant la Première Guerre mondiale, sont venus effectivement pour couper du bois. J'ai découvert avec lui, quand je l'ai rencontré à l'ITMX, au musée du Marensin, il y avait tous les outils utilisés par les Landais pour abattre les arbres, qu'en fait, il y avait des scies canadiennes et des scies françaises. C'est-à-dire, à un moment donné, je vois M. Devigne dire, mais sans le connaître, qui dit, mais là, ça, c'est une scie canadienne et ça, c'est une scie française. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit?
Oui, mais écoutez, je vous imagine en train de vous dire qu'est-ce
qu'il
dit.
Non, mais...
Et alors du coup, vous avez commencé à discuter avec lui.
Alors oui, parce que je suis un grand timide,
vous
le savez.
Et après, lui, le pauvre, il ne savait pas comment ça dépêtrait.
Exactement.
Et là, il a fait une tranchée pour essayer de sortir du musée.
Avec du bois, et il est revenu malgré tout, vous voyez. Donc ça a été difficile. Et donc, il a écrit ce livre, Les faiseurs de sciure, parce qu'il a trouvé à 200 mètres de chez lui, donc des tombes de soldats canadiens, enterrés et qui étaient venus durant la Première Guerre mondiale pour couper des arbres et alimenter le front. Donc ça, c'était le premier livre qu'il a sorti sur le corps forestier canadien du groupe de Bordeaux. 4000 hommes qui sont venus en Gironde et dans les Landes, notamment dans le village de l'Esperon, qui est à côté du village natal de mon grand-père dans les Landes. Et mon grand-père, je le disais dans la première émission, avait, je l'ai découvert, donc du coup, puisque je l'ai à la maison, une scie canadienne.
D'accord.
Qu'il avait racheté, certainement.
Il y a une particularité, comment vous les reconnaissez?
Alors, il va vous expliquer ça.
Alors, le passe-partout, donc, c'est, pour le repérer, c'est simple. Vous avez un crochet, trois dents, un crochet, trois dents. C'est vraiment très particulier, alors que nous, c'est une dentelure simple.
Ouais.
Et avec un porte-voix, c'est-à-dire on dirige la dent pour attaquer le tronc.
D'accord.
Et donc, l'avantage de ces scies canadiennes, c'est qu'elles permettaient de sortir beaucoup plus de sciure, elle permettait de les abattre beaucoup plus rapidement que les scies françaises. Elle mettait 5 minutes, vous disiez, pour un arbre de 30 à 40 ans.
C'est ça, à peu près, oui.
Alors, donc là, on part sur une BD, là, cette fois-ci.
Et là, on part sur deux bandes dessinées. Voilà, donc, toujours de David Devigne, donc, Gawain, mineur de fond, soldat, consul de Grande-Bretagne, d'accord. Et on part également...
Sur une autre
que, BD,
que Diego, Ernest, que Diego avait pris.
Que Diego avait pris, voilà.
Que je me suis fait subtiliser.
Ouais, qu'il s'est fait subtiliser. Donc Ernest, un soldat bûcheron, canadien oublié de la Grande Guerre. Et le but, vous savez comment j'aime beaucoup tout ce qui concerne effectivement la transmission, le devoir de mémoire. Et c'est un véritable devoir de mémoire qu'a fait David Devigne. C'est pour ça qu'on l'invite aujourd'hui. Pourquoi avoir fait ces deux BD? Qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, à l'issue du premier ouvrage des faiseurs de sciure, vous vous êtes dit, il faut que je parte sur un autre ouvrage, une autre forme, avec deux bandes dessinées. Quelle était l'origine de ça, David Devigne?
Alors déjà, depuis tout petit, je dessine. Donc c'est moi qui réalise les dessins. Et bien souvent, bon, on va dire, je passais plus de temps à dessiner qu'à faire mes devoirs. Et donc
vous avez dû être un enfant en classe, d'accord, qui a dû être... Très bon en dessin, mais...
Voilà. Oh, j'avais pas toujours des bonnes notes en dessin. Et donc, en fait, à la sortie des Faiseurs de Sciure, ma compagne Carole m'a dit il faudrait l'adapter en bande dessinée, l'histoire de ces hommes, pour que ça soit beaucoup plus abordable à tous. C'est-à-dire que les Faiseurs de Sciure, c'est vrai que c'est un livre, un gros travail de mémoire, mais en même temps...
C'est un travail de recherche un peu.
Et c'est ça, et c'est quand même... Tout le monde n'a pas trop envie, même si
un
on peut...
Un côté ardu, vous voulez dire, c'est ce côté ardu, il fallait le rendre plus... toucher un public plus large, y compris des enfants.
Exactement, voilà. Et donc on a décidé, comme c'est, on a commencé par l'histoire d'un soldat canadien, on a décidé de le faire bilingue. Donc, il est en français et en anglais. Et que faire une bande dessinée sur 30 000 hommes, c'est assez... je ne savais pas trop par quel bout commencer. Et on avait... on était en contact avec la demi-sœur et le cousin d'un soldat canadien qui est mort à Talence, qui s'appelait Ernest Pinet, qui était de Paquetteville, donc Nouveau-Brunswick. Et un événement triste, parce que la vie est ainsi, sa demi-sœur est décédée en 2021. Et non, oui, 2021. Et la veille de sa mort, elle nous a envoyé une lettre en nous disant « David, Carole, n'oubliez pas Ernest ».
La veille de sa mort.
La veille, oui. Ça nous a marqué.
Oui, parce que comme si elle avait senti que...
Que sa fin était proche et qu'il fallait qu'elle envoie un message. Voilà, elle transmettre un message. Et donc, on s'est regardé avec Carole. On a dit, la bande dessinée sur le corps forestier canadien, ça sera à travers la vie d'Ernest. Ernest, c'est un jeune homme qui s'engage à 17 ans et qui est mort à 19 ans de la grippe espagnole. Il a été déployé donc, dans les Landes de Gascogne. Et il appartenait au 165e bataillon d'infanterie, transféré au corps forestier. Il a été déployé après, transféré dans la 59e compagnie forestière, qui a été déployée à Belin-Belier, puis à Lanton et à Parentis-en-Born. Et c'est lors d'une... Malheureusement, on a découvert certains éléments après la sortie de la bande dessinée, qu'il était mort lors d'une permission. Il revenait d'une permission et il est mort à l'hôpital de Talence.
D'accord, et donc de la grippe espagnole, vous disiez à l'époque, bon, qui était effectivement une grippe qui a... Alors, on estime à 20 millions de morts à peu près, hein, c'est-à-dire plus que le nombre de morts durant
la Grande Guerre.
Durant la Grande Guerre. Alors, on rappelle, donc c'est deux BD, hein, donc la première, David Devigne, donc Ernest, un soldat bûcheron canadien oublié de la Grande Guerre, en deux langues.
Tout à fait, français-anglais, bilingue.
Français-anglais, bilingue, pourquoi ? Parce que les soldats qui sont venus, on le rappelle, étaient soit des francophones, soit des anglophones, d'accord ? Le deuxième, Gawin, donc mineur de fond, soldat, consul de Grande-Bretagne. Alors vous allez nous expliquer là sur mineur de fond, soldat, comment on fait pour être mineur de fond, soldat et puis devenir consul de Grande-Bretagne ?
Alors là, c'est tout. Ça aussi, c'est toujours des rencontres. J'ai un ami qui a trouvé un jour des médailles, qui me les a montrées. Et il y a une particularité dans les médailles du Commonwealth, c'est qu'elles sont nominatives. C'est-à-dire sur la tranche, vous avez le matricule du soldat, son grade en abrégé, les initiales de son prénom, son nom et son régiment d'affectation. Et à travers ces médailles, je me suis dit, c'est très intéressant de voir cet homme qui a une décoration militaire et civile. C'est ce qui m'a interpellé. Et j'ai cherché, et j'ai commencé à fouiller. Et donc ce jeune homme, j'ai découvert qu'il était, puisque sur ses fiches d'engagement, on voit qu'il est mineur de fond. Il s'engage avec ses frères en 1914. Il participe c'est ce qu'on va appeler les bataillons de copains, les Pals bataillons. C'est-à-dire qu'avec les pertes de 1914, l'armée britannique va demander, enfin le Lord Kitchener va demander, ministre de la guerre, un engagement massif à des hommes. Et ça va être des millions d'individus âgés de 18 à 49 ans qui vont s'engager dans les forces armées britanniques.
Sans qu'il y ait de conscription.
Sans qu'il y ait de conscription. Ils vont s'engager. Ils vont s'engager pour l'effort de guerre. Après, il faut voir aussi qu'à l'époque, c'était la publicité, c'était les affiches, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas le cinéma, enfin, ce n'était pas accessible à tous. Et donc, il va s'engager avec ses frères, il va participer à la bataille de la Somme. Le premier jour de la bataille de la Somme, le 1er juillet, il va être cité pour son courage et son leadership, et il va être blessé gravement. Il va être envoyé dans une unité logistique. Et cette unité logistique, il va se retrouver à Dunkerque. Et à Dunkerque, il va rencontrer une jeune Française. Ils vont tomber amoureux, ils vont se marier et il va basculer dans les services diplomatiques de son pays. Et il va passer plus de 10 ans à Dunkerque pour être après transféré à Bordeaux. Et en juin 40, au moment de la débâcle, il se trouve vice-consul à Bordeaux. On le retrouve après à... donc il regagne la Grande-Bretagne après forcément que la France est occupée. On va le retrouver à Alger. Et après la guerre, il va être à New York et il va finir sa carrière à Nantes. Et le couple va décider de finir sa vie en France. Et il va vivre dans une belle propriété dans le Médoc. Et il va mourir à l'âge de 65 ans. Donc vraisemblablement, il meurt de pneumonie. Mais je pense que ses années de mineur... va lui créer quelques petits soucis de santé.
L'ont aidé à abréger considérablement donc, son espérance de vie. Quoi.
Voilà. Et donc, je trouvais que c'était une histoire quand même exceptionnelle, atypique, de voir un homme qui commence mineur de fond et qui termine sa vie consul de Grande-Bretagne. Cet homme, pareil, c'est un peu comme les soldats canadiens, va être un peu oublié en Grande-Bretagne. Et maintenant, au cimetière où il repose à Saint-Sorin-de-Cadourne, il y a une plaque, toujours bilingue, on fait dans le français-anglais, il y a une plaque qui rappelle son parcours. Il y a un drapeau d'ailleurs britannique qui rappelle, un petit drapeau qui rappelle où est sa sépulture. Il y a une plaque qui a été offerte, puisque grâce à mon travail, la Tour de Londres, puisque son régiment, sont les Northumberland Fusiliers à Newcastle, va envoyer une délégation et un officier va venir pour commémorer cet homme et il va me dire: David, tu as la Tour de Londres chez toi, puisque les traditions sont détenues par la Tour de Londres. Et donc, je suis allé plusieurs fois à la Tour de Londres et lors d'un voyage avec Carole, ma compagne, on a offert une copie de la plaque en tissu, parce qu'on ne l'a pas trimballé dans l'avion, c'est des grandes plaques de 80 sur 65 de plexiglas, pas très pratique. Donc, et ils ont apposé la plaque dans le régiment du Newcastle où Gavin Wan était donc sergent, et dans le mess des sergents. Et la troisième plaque a été offerte au consulat de Grande-Bretagne, de Bordeaux, qui a posé la plaque dans son consulat pour rappeler qu'ils avaient un homme qui a quand même eu un parcours atypique et exceptionnel.
C'est vraiment une histoire étonnante. Je voudrais qu'on revienne sur ce projet que vous avez, Chemin de mémoire et des bûcherons soldats 1917-1919. Aujourd'hui, je suppose que ce chemin de mémoire continue. Pour les auditeurs et les auditrices qui seraient intéressés, est-ce qu'il y a un lieu, enfin un endroit sur Internet où ils peuvent le consulter, voir éventuellement s'il y a des gens qui sont intéressés parce qu'ils auraient des ascendants et puis qui diraient, bah tiens, mais moi, comment je fais pour contacter David Devine là-dessus, comment ça se passe?
Alors, on a un site Les Faiseurs de Sciure. Alors, c'est sûr, il est en construction. Ce qu'on est en train de créer, c'est une association, justement, qui va mettre en avant ces hommes, c'est-à-dire pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli. Parce que le chemin de mémoire va être autant consacré à des soldats canadiens que... américains, puisqu'après, avec l'entrée en guerre en 1917 des troupes américaines, ils vont déployer dans les autres zones où les Canadiens ne sont pas déployés, des troupes américaines.
Pour couper du bois, toujours.
Pour couper du bois, toujours.
Donc des bûcherons comme eux.
Voilà. Alors eux, comme la tradition française ou britannique, ce sont des troupes du génie, du 10e et 20e régiment du génie. D'ailleurs, avec Carole, on a été, il y a quelques années, en 2018, on a été voir le 20e engineer qui se trouvait à Fort Wood, au Texas. Voilà, et donc, ce chemin de mémoire, voilà, on est en train de construire quelque chose, un site, une association pour la mémoire. Et la finalité, c'est surtout créer un musée, puisque depuis des années, j'ai récolté beaucoup d'éléments, c'est-à-dire des photos, mais en même temps des outils, des pièces d'uniforme, des coiffures. Donc, on trouve important qu'ils aient un lieu.
Il faudrait quel espace pour arriver à exposer tout ce que vous avez pour nous donner une idée?
Honnêtement, je ne sais pas. je suis incapable de dire. J'ai eu fait des expositions.
Enfin, comme on a vu, par exemple, le musée qu'on avait visité ensemble, là, dans les Landes, le musée de l'ITMX, on va dire qu'il y avait facilement 400 mètres carrés, je pense.
On peut, 400 mètres, c'est... parce qu'il y a quand même des choses très particulières. Et puis, on fait en même temps... on demande aux gens, c'est-à-dire s'ils ont des outils, des choses de, qui veulent se séparer ou même des objets qui veulent qu'on ouais, on peut prendre en photo.
Sur une brocante et puis que
exactement.
Ça parte.
Exactement, c'est ça, parce qu'il ouais. y a quand même ces choses, ça fait partie de l'histoire de la France, mais en même temps surtout l'histoire du Canada. Et quelque part, ce lien, comme j'expliquais lors de la première émission, c'est que des Françaises se sont mariées avec des Canadiens. Donc il y a eu ce lien, et au Canada, ils sont très demandeurs de connaître l'histoire de ces hommes.
Alors est-ce que ça ne voudrait pas dire, David Devine, qu'il ferait monter deux musées, un en France, alors où, et un autre au Canada? C'est une question.
Oui, en France, je ne sais pas. Quel serait le lieu?
Ça serait les Landes, la Gironde, vu que... ou un autre endroit.
Je pense que le mieux, c'est que c'est l'histoire de ces hommes, ce sont des Canadiens. Je crois que c'est le mieux que ce soit les Canadiens qui se leur approprient.
Pour déterminer le lieu, y compris en France.
Oui, enfin, je pense que ça serait mieux d'avoir un lieu au Canada, parce que au départ, ce sont des hommes, c'est des Canadiens.
Donc un musée au Canada.
Au Canada, je pense que ça serait le plus simple. Je sais, peut-être en France, j'ai déjà sondé depuis des années. Tout le monde est d'accord, mais c'est toujours très compliqué, c'est pas simple de trouver un lieu, de trouver une commune qui va vouloir accepter ce...
Vous pensez que la motivation en France n'est pas suffisante, parce que je vois, pour quelqu'un comme moi, qui on a cette même passion sur le devoir de mémoire, pour des raisons différentes, vous, les tombes qui étaient à proximité de chez vous, moi, la mort donc, de mon grand-père qui est tombé pour la France, décoré de la médaille militaire, décoré de
la croix de guerre,
etc., plus 9 autres qui ont été blessés, donc qui sont partis, un deuxième qui est mort, qui est enterré, à Notre-Dame-de-Lorette, lors de la bataille de Notre-Dame-de-Lorette, qu'a disputé également mon arrière-grand-père. Je pense qu'à un moment donné, c'est important, parce que moi, par exemple, ça ferait partie des choses, je pense que j'aimerais voir, et je pense que je ne serais pas le seul. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un musée en France? C'est une question.
Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Pour l'instant,
on est... Au Canada, et quel lieu? Parce qu'il y a peut-être un maire, là, comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes arrivé là dans une commune, le maire vous dit, non mais attendez, qu'est-ce que vous racontez, là, vous avez des preuves? Ben oui, regardez le journal de marche et d'opération. Il y aurait peut-être une commune, je pense notamment à la commune qu'on a vue à l'ITEMIX. Vous avez vu qu'on est tombé sur des passionnés.
Bien sûr, oui. Alors, après, c'est
donc
mieux.
Donc, village concerné, en plus.
Voilà, alors, ils ne sont pas venus à l'ITEMIX, mais peut-être qu'un village... qui était concerné par le déploiement de ses troupes pour être intéressé. Après, de toute façon, nous, avec Harold, on reste ouvert à toute proposition. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces hommes, ils sont déjà tombés. Vous savez, là, je crois qu'il y a deux choses qui... La médaille, bien sûr, ça fait très plaisir. C'est une reconnaissance. C'est même, une carte de visite. Je crois qu'il y a deux choses qui m'ont été dites par des Canadiens. C'est-à-dire, il y avait le colonel... Guy Maillet, qui était l'attaché de défense à l'ambassade du Canada, qui m'avait dit, David, maintenant, ces hommes ne sont plus en bas de page des livres d'histoire.
C'est une phrase même qu'on peut trouver dans un musée, ça.
Exactement.
Qu'on a envie de lire.
Et la deuxième, c'est un lieutenant-colonel qui était Lee Goodman, qui est une femme, qui était le premier chef de délégation de l'armée canadienne lorsqu'on a inauguré les plaques, et qui m'a dit, David, tu nous as fait prendre conscience qu'on avait oublié 30 000 des nôtres.
Voilà. C'est pas neutre. Voilà. C'est pas un petit chiffre. Hein.
Voilà. Et je pense que ces deux phrases sont importantes. Et voilà.
Moi, je les verrais bien à l'entrée d'un musée, ça.
Ah oui, moi, ça, oui. Ça,
c'est... Moi, ça me parlerait. Moi, j'arrive à un musée, je vois ça, j'attends l'ouverture, comme au musée de l'ITEMIX. que l'on avait vu, que je recommande d'ailleurs à Philippe Subercaz et à Diego Arabal.
Le musée de la vie rurale à la Luc est bien aussi.
D'accord,
très beau musée. Très beau musée.
Très beau musée également. Bon, vous savez qu'il est dans la Grande Hollande, par contre, c'est pas le Marensin. Hein.
Oh. Oui, mais ce sont des gens passionnés.
Personne n'est parfait. Hein.
Et ce sont des passionnés quand même. Hein.
Non, je sais. Bon, enfin voilà, donc, on rappelle quand même. Philippe Subercaz, donc Gawin, mineur de fond, soldat, consul de Grande-Bretagne. Vous imaginez le destin quand même de cet homme,
oui.
qui a cumulé ses trois emplois. Ernest, un soldat bûcheron canadien, oublié de la Grande Guerre. On rappelle le premier aussi parce que ben voilà, c'est un fil rouge.
C'est celui qu'on avait fait la semaine dernière.
Ouais, c'est un fil rouge. Hein. On peut pas les séparer. Il y a un fil rouge entre les trois. Les faiseurs de sciure, qui était le nom donné aux bûcherons canadiens donc durant la première guerre mondiale. Voilà, trois ouvrages vraiment qui donnent envie de voyager. Et comme le disait à l'instant David Devine, il se pose la question, comme il a beaucoup d'objets, d'ouvrir un musée. Et je lui disais, mais où ouvrir le musée? Est-ce qu'on ne pourrait pas en ouvrir un en France, puisqu'ils sont venus en France et qu'ils ont travaillé, et un autre au Canada, puisqu'il le disait à l'instant, l'un des officiers lui a dit, vous avez évité que 30 000 des nôtres, 30 000 soldats qui étaient des nôtres, ne finissent en bas des pages d'histoire, ce qui n'est pas neutre.
Et, oui.
Et ce devoir de mémoire, je pense effectivement qu'il est important. Oui. C'est quoi vos projets pour l'avenir?
Bah déjà, au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, nous repartons au Canada.
2024, d'accord.
Voilà, 2024, pour Carole découvrir le Canada, et puis moi redécouvrir certaines villes, et surtout continuer les recherches et rencontrer des familles de ces hommes qui sont repartis au Canada, et donc rencontrer leur descendance.
C'est une quête et une recherche qui financièrement a un coût quand même, parce que des voyages au Canada,
oui,
ça coûte.
Oui, j'ai pas de subvention.
Non.
Bon, on fait un appel alors.
On fait un appel. Si jamais, hein, si des gens trouvaient votre projet intéressant et qui voudraient vous soutenir, écoutez, pourquoi pas. Hein.
Ah oui, avec plaisir.
On profite de la radio, vous pourriez lancer, vous savez, un appel à projet comme on a là, je sais plus.
Pourquoi vous n'avez pas lancé sur LinkedIn, Cagnotte en ligne pour essayer de vous aider?
Oui, alors on a fait les livres, on avait commencé par la plateforme Ulule. Oui. Donc c'est comme ça qu'on lançait le projet pour avoir, on va dire, un départ de fonds pour la production du livre. Oui. Puisqu'après, bien entendu, le complément, c'est nous qui le faisons. Oui. Mais je pense que, même si ça coûte très cher, je crois que le jonc vaut la chandelle. C'est-à-dire ces hommes ne doivent pas mourir une deuxième fois.
Oui.
Voilà, c'est ce qui nous motive.
Et peu de personnes sûrement savaient que des Canadiens étaient sur le sol français pour nous aider pour la Première Guerre mondiale. Quoi.
Voilà, alors ouais. On connaît plus les troupes qui ont été en première ligne, oui, comme la bataille de Vimy, Courcelette, autres, mais que des unités logistiques ont déployé 30 000 hommes entre la France et la Grande-Bretagne. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les sous-marins déjà allemands torpillaient les bateaux de ravitaillement. Donc plutôt que d'exploiter le bois au Canada, on a décidé d'exploiter in situ, c'est-à-dire Grande-Bretagne et en France.
D'accord. Voilà. Et la forêt des Landes qui avait été, moi je le sais maintenant grâce à vous, Filoni, grâce à Napoléon, à qui on doit la forêt des Landes.
Napoléon III.
Mais je sais tout maintenant sur Napoléon III.
Il faut que vous reveniez, Philippe Subercase.
Je reviens la semaine prochaine.
Vous savez qu'on regrette avec Diego Arrabal quand ce n'est pas vous qui êtes à la technique. Hein,
oui, rarement. Hein.
C'est vrai.
Bon, on va rappeler les titres et surtout, comment on peut se les procurer? Parce qu'il y a certaines fois des livres, on a du mal à les trouver.
Alors, Ernest, un soldat bûcheron canadien oublié de la Grande Guerre, on rappelle les titres. Gawin, mineur de fond, soldat consul de Grande-Bretagne. Les faiseurs de sciure, vous disiez lors de la première émission qu'il était épuisé.
Oui, alors les deux autres, vous pouvez les contacter par le site Les Faiseurs de sciure. Vous rentrez, vous demandez, vous transmettez vos coordonnées. Le premier, Ernest, le bûcheron canadien, il est à 23 €, et le deuxième sur Gavin, qui est encore, on peut le trouver, est à 25 €, puisque 2 € a été reversé par album à la Royal British Legion, c'est-à-dire l'association caritative des forces armées britanniques.
Alors on rappelle, d'accord, que c'est l'auteur qui a fait les dessins.
Oui.
C'est lui qui a fait les dessins. Donc
il y a un joli coup de crayon quand même.
Ouais.
Et un temps fou, parce que ça doit être chaque plat.
Attention, bilingue.
Ah oui.
Et oui, parce que les soldats canadiens qui venaient, il y avait des francophones et des anglophones.
Ouais, d'accord.
Et donc, pour ce respect de la mémoire, le faire dans la langue, effectivement, d'origine des personnes, et que les Français puissent le lire, parce que les gens des Landes, de la Gironde et d'autres départements ont été concernés.
Exactement. Et bien voilà, c'est ça aussi la mémoire. Et puis on apprend plein de choses. Hein, et c'est ça un peu l'intérêt de votre émission, Philippe Nouni et Diego Arrabal. On va saluer nos invités. On prendra peut-être un jour le plaisir de reparler. Hein,
Je pense qu'ils vont avoir d'autres projets. Je pense qu'on va revoir David Devine.
Oui.
Je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que, vous voyez, il s'agit. Je pense qu'on va les revoir.
Très bien. Au revoir, David Vincent.
Au revoir, David Vincent. Ah, je vois qu'on est les mêmes. Ouais, vous regardez aussi à cette émission, ouais, je me rappelle. Ouais.
À la semaine prochaine. À la semaine
prochaine. Qu'il n'avait jamais trouvé.
Jamais trouvé. Et il s'est retrouvé dans la forêt des Landes. Et il a commencé.
Avec des Canadiens en train de couper les arbres.
Merde, il coupe les arbres.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.